Souligner des liens séculaires qui lient Fribourg à la France. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de venir. Je voudrais saluer aussi, je ne l'ai pas fait, monsieur le recteur magnifique de l'université, monsieur Meyer, qui nous aussi la présence. C'est un plaisir. Monsieur Baudelaire a été chargé de faire votre relation, de l'ami, et il est poète. Éditeur, et je me permets de rappeler qu'il a été lauréat du prix de notre fondation en 1986. Et je voudrais dire, rappeler, qu'il s'est entretenu avec notre lauréat, M. Bourgeot, dans le magnifique portrait filmé qui fut consacré à M. Bourgeot par Mme Dominique de Riva en 1993. Est-ce que Mme de Riva est là?
Oui.
Ah. Je voudrais saluer aussi. Alors, au revoir, Blair.
À ce prix que l'on décerne aujourd'hui à Georges Bourgeot, on le décerne à une œuvre, à une belle œuvre, mais aussi à une fidélité. À la fidélité de toute une vie, à une vocation. Tout jeune, à 26 ans, quand Georges Bourgeot n'était encore que modeste, mais déjà rayonnant libraire à Fribourg dans les années sombres, tout cela se préparait, mûrissait au contact, Yoki l'a dit, d'une extraordinaire élite intellectuelle, Charles-Albert Saint-Grillat, Gianfranco Contini, Pierre Jean Jouve, le peintre Balthus, le futur cardinal Journet, grand lecteur et ami des poètes. Il faudra encore attendre quelques années, assez peu finalement, pour qu'en 1952, son premier livre paraisse. C'était Le Préau, un coup de maître. Georges Bourgeot avait 38 ans. Ceux qui publient le plus vite et produisent plus qu'on en peut compter ne vont pas forcément le plus loin, ni le plus profond. Georges Bourgeot, qui a longtemps attendu avant de publier, n'a pas essayé de rattraper ce qui n'a jamais été en retard. Et à moins de 80 ans, l'auteur peut considérer une œuvre qui n'est pas sans ampleur. Pour en donner une image quantitative, on dira qu'elle est principalement constituée par 6 volumes, forts au total d'environ 1500 pages, 2000 avec le roman à paraître, à quoi s'ajoutent plusieurs centaines de pages dispersées en volumes, en revues, et un massif d'inédits. Des romans, il en a publié 3, et le 4e, Journée de printemps, s'annonce. Mais Georges Bourgeot n'est pas que romancier. Avec Italique, Le soleil sur Aubiac et d'autres essais plus brefs, nous nous trouvons devant l'autre versant qu'on peut, avec des nuances, appeler le versant autobiographique, car il donne à lire le rapport singulier que l'auteur entretient avec le monde, avec la vie, avec d'autres œuvres aussi, celles des écrivains et des poètes, celles des peintres, celles des musiciens. Et toujours, quand il parle d'autre chose, il reprojette ces choses sur lui-même. Il explique comment il les sent et il parle de lui. C'est toujours l'occasion de retour sur lui-même. Ces deux versants, le versant romanesque et le versant des essais, s'adossent à une force centrale et à la source inépuisable qui semble en émaner, l'énigme du moi, les rêveries et les douleurs de l'identité. Les trois romans adoptent, pour employer la terminologie de Genette, le mode narratif de la focalisation interne sur le héros. Ça engage un peu tard. C'est le héros narrateur qui raconte son histoire, et ce héros est toujours un double de l'auteur, mais un double distinct aussi bien de la personne de l'auteur que du narrateur. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec Georges Bourgeot de ses romans et de l'interroger sur le sens de tel ou tel passage. À chaque fois, Georges Bourgeot passait du contenu des romans à la réalité qu'il avait vécue et qu'il avait plus ou moins réorganisée. C'est dire, à quel point sa littérature est personnelle, à quel point elle épouse son intimité, même si la liberté qu'il s'octroie lui permet de transposer, d'ajouter à la réalité trop souvent imparfaite ou peu explicite, les éléments qui conféreront au roman ce surcroît de vérité qui lui est indispensable. Comment faire comprendre à ceux qui me lurent innocemment, se demande Georges Bourgeot dans Le Soleil sur Aubiac à propos du voyage à l'étranger, comment faire comprendre à ceux qui me lurent innocemment que je ne m'étais pas raconté avec une grande exactitude et qu'ils ne devaient pas me plaindre des revers de la vie que mon roman semblait révéler. Fausse confidence, avais-je envie de leur dire pour les rassurer. L'intérêt des romans de Georges Bourgeot n'a rien à voir avec les révélations anecdotiques que l'indiscrétion pourrait y chercher. Cela peut paraître paradoxal, mais cette œuvre qui nous renvoie continuellement à la vie de l'auteur, aux activités de l'auteur, à ses opinions, ses sensations, ses émotions, n'est pas intéressante en soi, pas plus, pas moins, que celle de Montaigne ou de Proust. Mais comme toute littérature personnelle, elle l'est par des qualités dont il sera question dans un moment. Ici, il me faut dire un mot de ce que j'appelle littérature personnelle. Pour simplifier, je dirais que la littérature personnelle emprunte deux voies. La première, la plus directe, réunit les notes, les carnets, les journaux intimes, les confessions, les souvenirs, les mémoires. C'est la voie de l'épanchement, de l'exploration du moi, celle de l'analyse, de la réflexion. C'est le mode d'expression favori de nombreux écrivains et fort divers, de Montaigne à Rousseau, Daniel à Léoto ou Perros, de Jouandeau à Michel Léris. La seconde voie de la littérature personnelle, c'est la voie romanesque, la relation à la réalité et dans ce cas indirecte, médiatisée par la fiction. L'exemple magistral est celui de Proust. L'œuvre de Georges Bourgeot emprunte ces deux voies. Elle passe de l'une à l'autre avec un égal bonheur. La note, le carnet dans Italie, la description du réel dans Aubiac avec retour sur soi-même, et l'autobiographie transposée, romancée, dans Le Préau, La vaisselle des évêques et Le voyage à l'étranger. Maintenant que nous avons situé l'œuvre de Georges Bourgeot dans l'espace littéraire, nous pouvons changer de point de vue et la placer dans un nouveau paysage, le paysage roman. Ici encore, l'apport de Georges Bourgeot est singulier puisque son œuvre réalise exemplairement une sorte de synthèse de certains traits caractéristiques de la littérature française en Suisse romande. François Nourricier le premier, je crois, avait observé dans l'œuvre de Bourgeot une sorte de géographie à la Proust qui réunissait les deux côtés de la Romandie, le côté protestant et le côté catholique. Cette géographie est très sensible dans Le Préau, où le héros narrateur, Maurice Passereau, circule d'un territoire à l'autre, du canton de Vaud à celui du Valais, et bénéficie presque chez les Beaucires à Auborange, c'est le nom romanesque d'Aubonne, d'une prérogative d'exterritorialité manifestée par des chapelles, des oratoires enclavés en pays protestant. Ces deux côtés, le côté de chez Roux et le côté Saint-Griat, dans la sensibilité littéraire romande, se reconnaissent à des traits particuliers. Le côté protestant correspond à l'introspection, à l'analyse du moi. Bien que Georges Bourgeot a bon droit s'en défendre, son œuvre, dans la tonalité qui lui est propre, retrouve les lointains horizons de l'effusion sensible d'Amiel et de Rousseau, relayés par l'œuvre poétique de Gustave Roux, l'aîné incomparable poète, à qui Le Préau est dédié. L'autre côté, le côté catholique, correspond, pour simplifier, au versant heureux de l'écriture, à la louange, au plaisir sensuel, à l'ivresse vitale. Chez Bourgeot, ces deux côtés sont inséparables. Ils coexistent dans tous ses livres. La synthèse par la géographie que nous venons d'évoquer métaphorise ainsi une synthèse par la sensibilité, par l'atmosphère et par le style. Dans ses ouvrages les plus solaires, Italique et Le Soleil sur Aubiac, les traits nocturnes et mélancoliques creusent le bonheur de l'instant présent, le fragilisent et lui donnent la vibration, la beauté des biens précaires. Cette beauté particulière des livres de Georges Bourgeot est un composé, une combinaison unique d'éléments que l'on peut retrouver ailleurs, comme une page de Mozart ou de Ravel est constituée de notes utilisées par tous les autres compositeurs, mais se reconnaît immédiatement. Nous approchons du terme de cet éloge. Quittons les généralités littéraires. Il suffit d'un peu d'attention pour s'apercevoir que l'œuvre de Georges Borgeaud se prête à des études très fécondes et que les interprètes ont devant eux des champs d'analyse extrêmement riches. Lié par exemple aux questions centrales de l'identité, le statut du héros-narrateur appellerait un examen dont on aperçoit déjà l'intérêt. À travers l'œuvre romanesque, l'identité même du héros-narrateur change de volume en volume, et le statut de l'instance narrative varie notablement, un peu comme celui du pseudo-Marcel, à travers les volumes de la recherche du temps perdu. Simplement parce que les rapports triangulaires de la personne de l'auteur, du héros et du narrateur changent à chaque volume. Un phénomène voisin peut être observé dans Italique et Le soleil sur Oubliac, avec ces incessants retours de l'extérieur au moi observant, qui sont évidemment liés au statut de la voix de l'instance d'écriture. Citation. Ce que j'ai à découvrir en moi n'appartient ni à la vie courante, ni au souvenir. Le fait d'exister tout simplement m'étonne. Enfin, dire une fois sur soi-même quelque chose qui n'est point encore été dit, que je sais latent, mais distrait par trop de choses quotidiennes, de gens, d'habitudes, de paresse. Ah, cela m'obsède de prendre par le bout cette histoire de moi-même, parallèle à celle qui se voit, et dont je ne me contente pas. Ce beau passage, dans les dernières pages du Soleil sur Aubiac, montre bien le travail de l'écriture qui se confronte là au manque essentiel, à ce qui se dérobe toujours. Nul écrivain digne de ce nom ne peut se contenter de ce qu'il a fait. Une féconde insatisfaction, une insatisfaction essentielle, fera toujours briller l'œuvre à venir, et c'est elle qui entraînera l'auteur à sa poursuite et l'enchaînera à ce labeur insensé et infini dont parle quelque part Valéry. Et nous sommes là au cœur de l'œuvre, car toute l'œuvre de Georges Borgeaud est dans cette mélopée, dans cette aventure de la voix à la recherche de sa propre énigme, et toute sa puissance de séduction en tient au pouvoir de mêler à la mouvance de l'être et de la voix qui en émane, le bonheur d'exister au malheur d'être, la joie à la douleur, de reconstruire enfin à partir de rien, d'un point d'origine douloureux, d'un manque, toute une œuvre qui métamorphose cette douleur en valeur positive.